Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour, il y a quelques semaines, Un jour dans l'histoire recevait Gabriel Debreuil pour évoquer 100 ans d'entente cordiale. Dans cette commémoration, le personnage d'Édouard VII a naturellement une place centrale, car il fut l'artisan de cette entente avec le ministre français des Affaires étrangères, Théophile Delcassé. Mais qui fut réellement Édouard VII. L'historiographie et l'actualité évoquent son règne très court, mais ont tendance à oublier qu'il fut le prince de Galles pendant 59 ans, dans l'ombre de sa mère, la fameuse reine Victoria. 59 années qu'on ne peut occulter pour mieux comprendre leur règne, 59 années pendant lesquelles il se forgea des idées, un style, un caractère et bien évidemment tout un réseau de relations à travers le monde. On a envie de dire quasiment une vie autant passionnante que passionnée. Eh bien, pour nous permettre de découvrir le parcours du prince de Galles, le parcours d'Albert Édouard, car il s'agissait de son véritable prénom, Un jour dans l'histoire reçoit Antoine d'Arjuson. Antoine d'Arjuson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, vous venez de publier une biographie de ce prince et de ce roi, Édouard VII, le prince de l'entente cordiale, aux éditions Perrin. Vous êtes un spécialiste de l'Angleterre puisque vous avez également travaillé sur deux personnages eux-mêmes extraordinaires de l'histoire anglaise, à savoir Castlereagh et Wellington. Alors peut-être une première question, une traditionnelle question sur les sources et la bibliographie d'Édouard VII. Vous dites que ces sources, que cette bibliographie sont à la fois considérables et extrêmement restreintes. Pourquoi ?
Parce que Édouard VII était un homme secret. Et rien ne marque plus ce goût du secret que les dernières volontés qu'il a exprimées, que toute sa correspondance privée soit détruite par le feu, ce qui a été fait au lendemain de sa mort. Et la correspondance de la reine Alexandra a également été totalement détruite au lendemain de sa mort. Édouard VII a été un roi extrêmement médiatique, même quand il était prince de Galles, il était déjà très médiatique. C'est-à-dire que la presse, pendant toute son existence, a relaté à peu près le moindre de ses faits et gestes. Mais d'un autre côté, ses pensées intimes, sa nature profonde est difficile à connaître et à rencontrer. L'historien est obligé de faire quelques interprétations parce que ce qu'il a écrit, il a beaucoup écrit, il écrivait énormément de lettres à beaucoup de personnes, ce qu'il a écrit a disparu. Les seules lettres que j'ai trouvées de lui en France sont des lettres qui étaient adressées au marquis et à la marquise de Jaucourt, qui n'avaient pas été détruites. Et ces lettres n'ont pas un véritable intérêt. En fait, dedans, il ne parle que de théâtre. C'était des amis de théâtre et ils se rendaient au théâtre ensemble. Et ce sont des lettres qui seraient intéressantes pour quelqu'un qui ferait une étude sur Édouard VII et le théâtre. Mais donc, il y a cette double facette qui est extrêmement curieuse et qui démontre que le secret est un des ressorts de son existence politique.
Un secret qui participe au mythe Édouard VII. Est-ce qu'on peut parler d'un mythe Édouard VII ?
Il y a un mythe Édouard VII. La légende disait, je pense que c'est une légende, on peut le dire à la radio, je n'oserais pas l'écrire, mais on disait de lui, vous le savez certainement, qu'il n'aimait pas les livres, qu'il préférait les hommes et qu'il préférait les femmes aux deux. Mais c'était un trait un petit peu exagéré, mais ça fait partie du mythe. Et il a, dans une certaine mesure, alimenté lui-même ce mythe. Parce que dans sa vie de prince de Galles, il a été mélangé à un certain nombre d'affaires qui ont été des affaires difficiles, et notamment avec des jeunes femmes avec lesquelles, pour certaines d'entre elles, en fait, il n'avait eu aucune attitude condamnable. Mais cela a contribué à ce mythe de l'homme amoureux de la vie, aimant la bonne chair, fumant énormément et un petit peu coureur de jupons. Et comme toujours, quand vous êtes coureur de jupons, et le mythe se développe particulièrement dans un pays comme la France, qui a une certaine indulgence pour les coureurs de jupons, quand il fait une belle conquête, on lui en prête 10. parce que nombreuses sont celles qui, dans le Paris des années 1860 à 1900, ont prétendu avoir reçu les faveurs du prince de Galles, et personne n'a jamais été là pour le vérifier. Donc, on lui a prêté certainement beaucoup plus qu'il n'a fait.
Alors, nous reviendrons naturellement sur ce mythe, et nous tendrons peut-être à restaurer, à réhabiliter le politique, car Édouard VII, on ne le dit pas assez, est un homme politique avant d'arriver... Au pouvoir sur le trône d'Angleterre. Alors peut-être un mot tout d'abord sur ses parents aussi. Il est le fils de Victoria et d'Albert de Saxe-Cobourg. Qui sont ces gens ?
Victoria et Albert sont tous les deux de sang complètement 100% allemand. Victoria n'a pas une goutte de sang anglais. Son père, son grand-père sont de souche allemande. Ils ont tous épousé des Allemandes. Sa mère est la sœur du duc père de Saxe-Coburg-Gotha, le père d'Albert. Et donc, elle a ce sang allemand qui coule dans ses veines, fait que ces Hanovres ont quelque chose d'un petit peu anachronique en Angleterre. Ce n'est qu'au bout de 3 ou 4 générations que les Hanovres ont véritablement été adoptés par la société britannique. Et elle épouse le prince Albert de Saxe-Coburg-Gotha, qui est donc son cousin germain. Et le prince Albert, lui, est un Allemand un peu fanatique. Il admire la culture allemande, à l'exclusion de toutes les autres. Il parle allemand avec son épouse, il parle allemand avec ses enfants. Il est un ardent défenseur de l'idée de la construction d'un empire allemand. Et donc, Albert va avoir beaucoup de problèmes en Grande-Bretagne.
Il se sent étranger à la Grande-Bretagne.
Toute sa vie. Et là, la société britannique lui tournera le dos. C'est-à-dire qu'il ne sera jamais adopté par les grands aristocrates britanniques qui peuplent, eux, la Chambre des Lords et dont les fils peuplent la Chambre des Communes. Donc, il y a un fossé, il y a une séparation entre son pays d'adoption et lui-même. Alors, tout ceci aura des conséquences parce que Albert a une caractéristique que lui a donné son éducation. Il est décidé à faire le bien. C'est un homme vertueux. Et la vertu, quand elle est un petit peu exagérée, tente à aboutir au contraire de ce qui est souhaité. Albert a un idéal qui est de faire de son fils, Albert-Édouard, un homme parfait et un roi parfait. Et donc, il lui dit, nous allons mettre sur pied, avec l'aide d'un de ses conseillers allemands, qui est le baron Stockmar, nous allons mettre sur pied un système d'éducation par lequel Albert-Édouard deviendra un jour le roi parfait. Et le paradoxe, c'est qu'on a appelé les Victoriens du nom de Victoria. Mais le véritable Victorien de la famille, c'est Albert, c'est le prince Albert qui est germanique. Victoria est une femme très joyeuse, elle aime la vie, elle aime le bal, elle va au bal jusqu'à 2-3 heures du matin. Et pendant les 20 premières années de son mariage, puisque son mariage va durer environ une vingtaine d'années, elle sera une reine très gaie, très aimable, très joyeuse, avec une petite tendance à l'autorité, parce qu'elle va avoir des difficultés avec son premier ministre. Et quand elle va refuser de prendre le conservateur Sir Robert Peel comme premier ministre et reprendre Melbourne, elle fait preuve d'un certain autoritarisme. Mais au lendemain de la mort d'Albert, elle endosse la tunique du veuf. Elle va passer le reste de son existence à se dire « qu'aurait fait Albert ? Qu'aurait dit Albert ?» Donc, elle devient victorienne au lendemain de la mort de son mari. Mais jusque-là, elle ne l'est pas. Et lui est toujours victorien. Alors, conséquence pour Albert-Édouard, une éducation germanique incroyablement sévère. Mais incroyablement.
Il a plusieurs tuteurs.
Oui.
Alors, vous donnez son emploi du temps à, oui, à l'âge de 6 ans, qui est, oui, un emploi du temps, mais ma foi, qui est celui d'un collégien aujourd'hui et même d'un lycéen.
Qui en aurait 15.
C'est extraordinaire.
Tout
et il
à
n'a
fait.
Que 6 ans.
Oui.
Comment vit-il cette éducation ?
Très mal. Il y a 2 traits à cette éducation. L'horaire que vous indiquez, qui serait celui d'un lycéen de 15 ans.
Il commence à 8h, il termine à 18h.
Il termine à 18h. Tout ceci est aggravé par un fait vraiment troublant pour un petit garçon. On lui refuse des compagnons de son âge. Il n'a pas d'amis. Sa seule compagnie sont ses frères et sœurs. notamment ses deux sœurs, sa sœur aînée Victoria et sa sœur cadette, qui sont toutes les deux des filles très brillantes, eh bien, ce malheureux Albert Edouard est confronté à deux sœurs qui font de brillantes études, lui a un programme infernal, et il n'est pas, scolairement, ce n'est pas un génie, il n'est pas très doué pour la scolarité et pour les études. Alors, pas de jeu, pas de compagnon de jeu, et un programme astreignant. Le résultat, c'est qu'il bégaye, il devient coléreux, assez insupportable. Il envoie promener l'encrier à la tête de son précepteur quand il en a assez, etc. Et donc, c'est vraiment un type d'éducation redoutable. Il fallait qu'il ait une santé personnelle, un goût de la vie tellement prononcé pour qu'à l'âge de 20 ans, il domine ses débuts si difficiles et qu'il devienne cet homme relativement épanoui, joyeux, aimable, sociable.
Vous dites qu'il était souvent en contact, et même tout le temps en contact, avec uniquement les adultes, en dehors donc de sa sœur, puisqu'il n'avait pas de compagnon de jeu. Est-ce que ça ne lui donne pas au fond une maturité d'esprit très rapidement ?
Peut-être, peut-être. Ça, je ne sais pas, j'oserais pas trop me prononcer sur ce problème, mais certainement, cela lui donne une aisance dans son attitude vis-à-vis, dans son comportement, dans ses rapports avec les adultes. Et c'est une aisance qui va se manifester très vite quand il va représenter sa mère, déjà dans un grand voyage à l'étranger aux États-Unis, au Canada, et tout le monde va être stupéfait de l'aisance de ce comportement de cet adolescent qui a 18 ans et qui est aussi bien avec les Canadiens qu'avec les Américains, les catholiques que les protestants et tout le monde, et il sait tout à fait y faire.
Alors, son éducation n'apportant pas les résultats escomptés, on le met même en face d'un médecin, le pauvre garçon, en face de ce que vous appelez un phrénologue, qui est l'étude, d'après le Larousse, qui est l'étude du caractère et des fonctions intellectuelles de l'homme d'après la conformation externe du crâne.
Oui.
On est en plein délire.
On est en plein délire. Alors, heureusement, j'ai l'impression que cette science a été abandonnée.
C'était une mode à l'époque, je crois, de la fin du 19e
voilà,
siècle.
Voilà, ça devait être une mode de l'époque. Et il y a certains... de professeurs de médecine qui se sont décernés le titre de spécialiste en phrénologie. Heureusement, cette mode n'a pas duré.
Est-ce qu'on peut parler chez Edouard d'une certaine frustration au début de son existence ?
Certainement. Il devait être très, très frustré de ne pas avoir de compagnon de jeu et de vivre cette existence de moine, cette existence tellement étrange. Il est à la fois le futur roi d'Angleterre et séparé du reste de ses contemporains, contraint à mener une existence tout à fait étrange pour un petit bonhomme de 6 à 10 ans. Je trouve que c'est admirable qu'il ait surmonté cette éducation aussi difficile et qu'il n'en soit pas résisté de complexes, de problèmes personnels qui se seraient manifestés d'une manière ou d'une autre.
Je reçois Antoine Darjuson qui évoque pour nous le sort de Bertie. Bertie étant le surnom d'Édouard VII, qui ne s'appelait pas Édouard VII. Il y a une raison... du choix du nom d'Édouard VII, nous le verrons tout à l'heure, son véritable prénom étant Albert Édouard. Nous nous retrouvons dans un instant. Un jour dans l'histoire reçoit Antoine Darjuson qui évoque pour nous Édouard VII, ce roi extraordinaire qui fut, comme vous dites, le prince de l'entente cordiale. Nous évoquons ses années de jeunesse car nous avons tendance, nous le grand public, à oublier qui fut Édouard VII avant de devenir réellement le roi et le générateur de l'entente cordiale. Alors nous sommes en 1855, Bertie, car c'est son surnom, a 14 ans, il fait... une rencontre extraordinaire, c'est la rencontre de la France.
Voilà. Et c'est un déclic, c'est l'enthousiasme immédiat. Il accompagne ses parents à Paris en août 1855, pour un voyage officiel où Napoléon III reçoit à Victoria le prince Albert, Albert-Édouard et sa sœur. Ce voyage officiel va se dérouler au milieu des fastes du Second Empire. Et qui plus est, Napoléon III va se donner le mal de s'occuper de ce jeune adolescent de 14 ans comme si c'était déjà un personnage important.
Est-ce qu'on peut parler déjà d'entente cordiale ?
Ah oui, on peut déjà parler d'entente cordiale parce que celui qui a de grandes réticences, c'est le prince Albert, c'est son côté germanique que nous avons évoqué tout à l'heure, et c'est lui qui est sur la réserve pendant tout ce voyage. Mais Napoléon III va savoir utiliser son charme vis-à-vis de Victoria, il va véritablement séduire Victoria. Victoria est très très séduite par l'empereur, elle le sera toujours, elle l'aimera toujours. Avec Albert-Édouard, il se donne le mal de le considérer comme un personnage important. Alors il l'emmène se promener tout seul avec lui dans les jardins de l'Élysée. Il le conduit, il est avec lui dans toutes les circonstances de ce voyage, notamment dans cette visite aux Invalides que j'ai raconté au début du livre et qui est absolument authentique, puisque à la fois Victoria, dans ses souvenirs, le raconte dans ses carnets, dans son journal, et c'est corroboré geste pour geste par le colonel Fleury qui tenait également le cours. Donc on peut penser qu'à travers ces deux souvenirs, cet épisode est exact.
Mais que se passe-t-il justement sous la coupole ?
Il est très impressionnant, ils sortent d'une grande revue militaire. Nous sommes à la fin du mois d'août 1855. Le ciel est noir, il y a un orage qui se prépare. Napoléon III hésite à emmener Victoria devant le cercueil de Napoléon et elle insiste tellement qu'il finit par accepter. Alors en hâte, on réunit quelques vétérans de la Grande Armée qui sont aux Invalides, on leur met les torchères dans les mains et donc on imagine ce cortège descendant en bas éclairé par les torchères et tout le monde arrive dans la crypte. Le tombeau n'est pas au centre, mais il est dans la chapelle Saint-Jérôme parce que le tombeau définitif de l'empereur n'est pas prêt. Et à ce moment-là, il rentre, l'orage éclate et Victoria met sa main sur l'épaule de son fils et lui dit « Agenouille-toi devant le cercueil du grand Napoléon ». Et donc, on assiste à cette scène du futur roi d'Angleterre qui est à genoux devant la dépouille du vaincu de Waterloo. La scène est belle. Et pour ma part, je pense qu'elle a marqué ce garçon. Alors évidemment, après ça, il reste à Paris, il va faire une promenade seul à pied dans les rues de Paris. C'est l'enthousiasme. Quelqu'un qui est vissé entre ses précepteurs, ses gouvernants dans le palais de Buckingham, de se circuler autour des Tuileries, c'est divin. On ne peut pas imaginer quelque chose de mieux. Et cet amour pour la France va perdurer absolument toute son existence, à travers les hauts et les bas des relations franco-britanniques entre 1850 et 1910.
C'est son premier grand voyage ?
C'est son premier grand voyage. Avant ça, il a été en Belgique voir son oncle, Léopold, mais c'est son premier grand voyage.
Alors, il doit évidemment revenir en Angleterre, il se doit de faire des études. Il a le désir de rentrer dans le métier des armes.
Voilà. Alors ça, c'est deuxième frustration. Donc, première frustration, cette éducation allemande. À l'allemande, pas d'habit. Et la deuxième frustration, on lui refuse absolument d'adopter le métier militaire. Mais ça, c'est le gouvernement. Ce ne sont pas ses parents, c'est le gouvernement qui s'y oppose absolument, étant donné qu'on considère que les dangers sont tels que s'il veut véritablement avoir une carrière militaire, les dangers sont trop importants pour un futur roi d'Angleterre. Donc on lui refuse ça. Ceci étant, son père imagine qu'on va lui faire un stage militaire dans un camp du sud de l'Irlande, il s'appelle le Cura, et on l'envoie pendant 3 mois là, où il est censé apprendre le métier de tous les officiers qui vont du grade de sous-lieutenant jusqu'au grade de colonel honoraire, qui est son grade honoraire dans l'armée, il a un grade de colonel. Alors évidemment, c'est impossible, le colonel écrit à la reine en lui disant non, il n'est pas capable de faire manœuvrer une brigade, c'est impensable qu'il fasse ça en une si brève période, mais il se passe. Autre chose, c'est que là, il tombe avec des camarades, et ces camarades, ces jeunes officiers qui sont aux messes, sont des joyeux. Et ils imaginent de mettre une jeune actrice, entre guillemets, actrice un peu demi-mondaine, dans le lit du prince de Galles. La jeune personne s'appelle Nelly Clifton, et manifestement, l'affaire est un succès.
Il a quel âge ?
Il a 20 ans.
Il a 20 ans.
L'affaire est un succès parce que il retourne à Londres à l'automne, il la revoit, mais malheureusement, cette jeune fille est un peu bavarde. Elle a un petit peu ce penchant féminin à la bavardise. Et très vite, l'affaire se sait, et on l'appelle la princesse de Galles. On se moque d'elle en l'appelant la princesse de Galles. Tout ceci revient aux journaux à scandale. Le baron Stockmar la prend en Allemagne, écrit au prince Albert. Le prince Albert convoque son premier chambellement, lui raconte l'histoire, lui dit « Vous allez me répondre la vérité droit dans les yeux. On dit que mon fils a couché avec une actrice. Est-ce vrai ?» Le chambellan, très embêté, répond « Oui, monseigneur, c'est vrai. » Alors, Albert est effondré, écrit une lettre invraisemblable à son fils. Il faut avoir lu cette lettre, c'est absolument extraordinaire. Une lettre où il invoque la morale. Une catastrophe, comme si une bombe était tombée sur l'Angleterre. Mais enfin, une catastrophe invraisemblable. Il dit, mais c'est la pire des choses, le pire peut arriver, etc. Et il n'arrive pas. Ce qui prouve que, pour employer une expression de nos jours un petit peu moderne, on dirait que sur ce plan, n'est-ce pas, des relations entre les hommes et les femmes, le prince Albert était certainement un peu coincé. Et donc, il avait des problèmes. Manifestement, il avait des problèmes pour avoir ce genre de rapport avec son fils. Et puis, la suite est très pénible parce qu'il va le voir à Cambridge et ils font une promenade ensemble. Albert-Édouard perd son chemin, son père prend froid et 3 semaines plus tard, il est mort. En fait, le prince Albert était un homme malade. À 45 ans, il était fini, il était usé et cela n'a été qu'un épisode. Mais le côté noir, c'est que la reine Victoria, pendant 2 ans, a accusé son fils d'être indirectement la cause de la mort de son père. Alors voilà, donc le rapport père-fils qui se termine de cette manière et... Deuxième conséquence, les Victoriens ne connaissaient qu'un remède quand un jeune homme se mettait à avoir quelques aventures féminines, c'était le mariage. On considérait que ça vous guérissait de tout.
Alors, je vais peut-être vous arrêter en ce qui concerne le mariage. Nous allons bien évidemment y revenir. Je voudrais peut-être reprendre les voyages, parce que il y a, vous le montrez bien, une émancipation à l'âge de 20 ans qui date de quelques années auparavant, et au fond, ce sont les voyages qui lui permettent de s'émanciper, notamment ce voyage aux États-Unis, en Amérique du Nord.
Tout à fait. Parce que ça aussi, c'est une deuxième révélation. Si le voyage à Paris de 1855 est une première révélation, le voyage en Amérique, quand il n'a que 18 ans, c'est-à-dire 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, est une deuxième révélation. Parce que il va représenter... La reine Victoria était invisible, ne se déplaçait jamais. Les Canadiens voulaient absolument qu'elle vienne au Canada et elle refuse. Alors, on décide d'envoyer le prince de Galles au Canada pour une manifestation officielle, inaugurer le nouveau parlement, inaugurer un pont, etc.
Est-ce qu'on peut dire que c'est son premier voyage de représentation politique ?
C'est son premier voyage de représentation politique.
Donc, absolument. C'est le début de son rôle politique.
C'est tout à fait le début de son rôle politique. Et là, la révélation, c'est ce génie de la communication comme nous l'exprimerions de nos jours. Albert-Édouard est parfaitement à l'aise, prononce des discours qu'on lui écrit, bien sûr, mais il y rajoute des phrases de sa propre veine. Il sait parler aux différents dignitaires qu'on lui fait rencontrer. Il montre à quel point il a une infinie patience avec les différentes personnes, les hommes, les femmes de ses colonies, etc. Il réussit admirablement au Canada. Il maintient cet équilibre très bien entre les francophones, les anglophones, les catholiques, les protestants. Et après ça, aux États-Unis, il fait un voyage qui a une nature de voyage privé, mais en fait, il y est reçu assez officiellement. Et il se trouve très à l'aise. Il est très à l'aise avec toutes les classes d'Américains, avec les hommes politiques, avec les particuliers. Et il gagne les cœurs. Alors vraiment, quand vous relisez la presse, le New York Tribune de l'époque qui relate son voyage... Plus le voyage avance et plus les colonnes qui lui sont consacrées sont importantes. Ça devient un véritable événement. Et donc, il se révèle à l'extérieur et il se révèle à lui-même comme étant un homme de communication, un homme qui aime, par instinct, parler directement aux autres hommes et inaugure son système de connaissances politiques, de rapports politiques, qui est le face-à-face. Albert-Édouard sera quand il sera roi, ce sera la même chose. C'est l'homme du face-à-face. Il aime connaître les gens, quel qu'il soit, de quelque bord politique, de quelque pays qu'il soit, c'est le face-à-face.
Alors justement, il y a un face-à-face qui a lieu, je crois, avant l'Amérique du Nord. C'est le face-à-face avec Pie IX à Rome. C'est assez étonnant de voir les relations entre un protestant et un catholique. Et au fond, on a l'impression, à la lecture de votre livre, qu'il n'a aucune notion de ce que peut être l'opposition entre les catholiques et les protestants.
Aucune. Il est convaincu, je pense, très jeune, que dans son empire, dans l'empire britannique des années de la moitié du XVIIIe siècle, il est le roi de sujets qui embrassent toutes les religions. Et je crois que très jeune, il est l'anti-bigot, le contraire du bigot. C'est-à-dire, je pense qu'il a une certaine foi chrétienne, il observe la religion anglicane, mais il respecte totalement toutes les autres religions, notamment la religion catholique, mais il est tout à fait aussi aimable avec les presbytériens, avec les protestants d'autres dénominations. Et donc, je pense qu'il pratique d'instinct une très, très grande tolérance.
On lui reprochera cette tolérance et ce respect ?
Oui, les fanatiques des deux religions, dans tous les pays et dans toutes leurs religions, vous avez toujours une toute petite frange de fanatiques qui se situent à l'extrême et qui sont toujours prêts à reprocher aux autres ce que l'on peut faire, tous les gestes de tolérance que l'on peut faire.
Alors, avant de venir au mariage avec Alexandra, il y a une anecdote que vous racontez. Ce sont les, vous citez les lettres de Victoria sur son aspect physique. Et on peut dire que Victoria est quand même très dure à l'égard de son jeune fils.
Voilà. Alors, Victoria...
Était-il laid, comme le dit Victoria ?
Attendez. Avant de savoir si Albert Edouard était beau ou laid, il faut dire une chose. C'est que Victoria est extraordinairement sensible à la beauté masculine. Quand Albert et son frère viennent pour la première fois en Angleterre, elle note dans son journal « Albert qui était là, il est si beau. J'ai revu Albert pour la seconde fois. Mon Dieu qu'il est beau. » Victoria est fascinée par la beauté masculine. C'est étonnant, c'est quand même extraordinaire. Et alors effectivement, elle trouve que son fils, qui est petit, qui n'est pas très bien fichu, est affreux. Et elle le note et elle le dit à plusieurs reprises. Elle l'écrit à sa grande confidente, qui est sa fille aînée Vicky, qui a épousé le Crown Prince et qui donc habite en Allemagne. Et heureusement, elles se sont écrites autant de lettres parce que nous avons toute cette correspondance qui nous permet de connaître l'état d'esprit de la mère. Eh bien, elle le trouve très laid. Et quand il revient d'Égypte, son deuxième grand voyage, vous savez, il fait un voyage au Moyen-Orient, après être revenu des États-Unis avant son mariage, et elle revient, en revenant, elle note dans son journal, Bertie est un peu moins laid, son apparence physique s'est un peu améliorée. Imaginez.
Et alors, quels sont justement peut-être...
Bon, il n'était pas très laid, il n'était pas beau. Il n'était pas beau. Il avait du charme. Il savait y faire, il était à l'aise, mais il n'était pas beau, il n'était pas grand. Et puis très vite, les excès de table ont fait que, bon, il était assez corpulent, voire très corpulent.
Quels sont ses rapports à l'époque avec sa mère, avant le décès de son père ?
Alors, avant le décès de son père, ses rapports sont moyennement bons. Moyennement bons parce que Victoria a aussi ses préférences parmi ses enfants. Et Albert Edouard n'est pas le préféré. La préférée, c'est Vicky, c'est la fille aînée, c'est la première enfant. Et donc, il a des rapports qui sont parfois bons, mais parfois un petit peu difficiles.
Il n'y aura pas de jalousie de la part d'Edouard VII à l'égard de sa grande sœur.
Non, ce qui est admirable. Il restera toujours en termes très, très, très chaleureux avec elle. Ils ont sûrement un sentiment fraternel très poussé.
Un jour dans l'histoire reçoit Antoine d'Arjuson et nous évoquons la vie avant le couronnement d'Édouard VII, la vie du prince de Galles, Albert-Édouard. Nous nous retrouvons après une seconde pause.
Canal Académie.
Ouvrir et découvrir les livres des académiciens, c'est ce que vous propose tous les jours Radio Canal Académie. À différentes heures de la journée, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques vous parlent de leurs écrits, notamment historiques, philosophiques et économiques. Les livres des académiciens, leurs lectures, les prix qu'ils décernent chaque année, Radio Canal Académie leur donne la parole. Connectez-vous et écoutez.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Antoine Darjuson qui vient de sortir une biographie aux éditions Perrin, Édouard VII, le prince de l'entente cordiale. Alors, vous évoquiez tout à l'heure la mort de son père, Albert, et Victoria, comme vous le dites, en voulait à son fils, car elle le juge responsable de cette mort. Et pourtant, Bertie, nous sommes en 1861, Bertie qui était, je le rappelle encore une fois, le surnom d'Albert-Édouard, le prince de Galles, Bertie semble se ranger puisqu'il rencontre, avant le décès de son père, en 1861, une certaine Alexandra. Est cette Alexandra?
Alors, Alexandra est donc princesse de Danemark et c'est avec regret que la reine Victoria accepte de la mettre sur la liste des candidates à la main de son fils. Parce qu'en fait, pendant 2 ans, elle a frénétiquement écrit à Vicky, sa fille aînée qui habite en Allemagne, la femme du Grand Prince, en lui disant « il faut trouver une princesse allemande pour Albert-Édouard ». Vicky épluche le Gotha, l'almanach de Gotha, mais elle fait des recherches dans toutes les cours d'Allemagne. Impossible de trouver une candidate qui soit satisfaisante. Alors à ce moment-là, une de ces dames d'honneur qui connaît le Danemark lui explique qu'il existe au Danemark une jeune princesse charmante qui est la nièce du roi, qui est la fille du futur roi et qui s'appelle Alexandra. Et Alexandra, effectivement, va plaire. On va leur organiser une rencontre. Épisode 13, Alexandre Dumas dans une cathédrale. Enfin, le Spire, c'est tout à fait amusant, cet épisode de leur rencontre. Alexandra rencontre ensuite la reine Victoria. La reine Victoria, malgré ses réticences vis-à-vis des Danois, vis-à-vis de la famille danoise, qu'elle considère, un, comme des parvenus, deux, comme des débauchés. Le roi actuel du Danemark n'a pas d'enfant. Il s'est marié 3 fois, il se promène dans toute sa ville de Copenhague avec une maîtresse qu'il a été recueillir dans les bas-ruisseaux de la ville. Alors, Victoria est indignée du comportement de cette famille royale danoise. Mais finalement, elle est séduite par Alexandra et elle accepte le mariage. Et donc, le mariage va se faire et ce n'est pas neutre, cela quand même beaucoup d'incidence sur le comportement politique d'Albert-Édouard.
Quel est peut-être dans la rencontre d'Alexandra et d'Édouard, que se passe-t-il? Vous dites que c'est un mariage arrangé, oui, c'est une rencontre elle-même arrangée à Alexandre Dumas, mais que se passe-t-il du côté d'Alexandra? C'est un coup de foudre?
Dire que c'est un coup de foudre, non, ça ne me paraît pas possible que ce soit un coup de foudre, mais je pense que des jeunes filles qui savent qu'au milieu du XIXe siècle, étant nées filles ou nièces de rois, ont un choix relativement limité, le futur mari, elle a dû trouver que Albert-Édouard était un homme agréable, certainement agréable. Son charme a dû jouer. Et sans être un coup de foudre, je pense qu'elle lui a été très, très solidement attachée pendant toute son existence. Il se plaisait. C'était un mariage arrangé, mais il se plaisait. Quand on avait présenté toutes les photos de ces princesses allemandes à Albert-Édouard, très vite, il avait dit « Non, celle-là, non, c'est pas possible. Celle-là, non, j'en veux pas. Non. » Et finalement, Alexandra était superbe. C'est une femme magnifique, splendide. Elle était très mince, c'était un port de reine, un visage ravissant. C'était une très belle femme. Donc, c'était un beau parti. Et pour un jeune homme de 22 ans, c'était, une créature séduisante, très, très séduisante. Alors, donc, ils vont se marier et Alexandra va avoir une influence, augmenter la francophilie d'Albert-Édouard, parce qu'Alexandra voue une haine tenace à la Prusse. Elle ne pardonnera jamais aux Prussiens le conflit du Schleswig-Holstein où l'armée danoise va être battue par les Prussiens et le roi du Danemark va être dépossédé des deux duchés du Schleswig et du Holstein. Donc nous n'entrerons pas dans cette affaire qui est une des plus compliquées du XIXe siècle. Mais le ressentiment d'Alexandra va perdurer. Et donc, elle va être heureuse toutes les années qui vont suivre leur mariage, pratiquement. Ils seront invités par Napoléon III et l'impératrice Eugénie à Fontainebleau. Ils seront invités à Compiègne, ils seront invités aux Tuileries. Et Alexandra est heureuse de venir là avec son mari. Elle se sent bien avec l'empereur et l'impératrice. Et elle va, aller dans le sens de la francophilie de son mari.
Alors là encore, Victoria va s'opposer au fait que cela soit un mariage politique, et pourtant, au fond, ça le sera.
Oui, ça le sera par les idées personnelles d'Alexandra. Mais Palmerston, qui est Premier ministre à l'époque de Victoria, considère bien avant tout le monde que les alliances matrimoniales n'ont aucune incidence sur les relations internationales. Il dit déjà, et là il est en avance sur tout le monde, mais au milieu du 19e siècle, Palmerston considère, et il le dit à la reine, le prince de Galles peut épouser n'importe quelle princesse, cela n'aura aucune incidence sur la politique que je vais faire mener à l'Angleterre. La meilleure preuve en est, c'est que la Russie va rester le principal ennemi de l'Angleterre pendant toute la seconde moitié du 19e siècle, jusqu'en 1908, où sera scellé enfin un accord entre l'Angleterre et la Russie. Mais les Britanniques vont considérer les Russes comme leurs pires ennemis parce qu'ils menacent les Indes, parce qu'ils menacent donc le nord des Indes, malgré de nombreux mariages entre la cour de Saint-James et la cour de Saint-Pétersbourg. Dagmar, la sœur d'Alexandra, est la femme d'Alexandre III, tsar de Russie. Et Aliki, la fille d'Alice, sœur d'Édouard VII, sera la femme de Nicolas II. Et malgré toutes ces alliances, un des frères d'Albert-Édouard épouse aussi une grande duchesse russe, une des nièces du tsar.
Je crois qu'on peut le dire, Édouard VII, vous le donnez dans un tableau généalogique qui résume tout au fond. Édouard VII est l'oncle de Guillaume II, de Haakon, du roi de Norvège, de Nicolas II, tsar de Russie, de Ferdinand Ier, roi de Roumanie, de Gustave V, roi de Suède, d'Alphonse XIII, de roi d'Espagne.
Absolument.
Et mais il n'y a pas de solidarité monarchique.
Aucune. Et ça, Palmerston a été le premier à le dire, à l'exprimer, à le comprendre. La politique extérieure de la Grande-Bretagne se fera sans tenir compte des alliances matrimoniales avec les maisons royales d'Europe. Donc là, il y a une page qui est tournée par rapport au XVIIIe siècle, déjà à cette époque. Et ceux qui croient qu'il peut y avoir encore une incidence, il n'y en a pas. Mais il y a cette incidence des sentiments personnels de la princesse de Galles, cette haine du Prussien qui alimente encore leur francophilie à tous les deux. Et ça, ça va perdurer tout le temps. Elle va vivre pendant la guerre de 14 et elle n'aura de cesse de souhaiter que l'on pende Guillaume II.
Antoine d'Arjuson, nous disions tout à l'heure que le premier rôle de représentation politique d'Édouard VII était en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada. Ceci dit, la reine, tout au long de sa vie, va systématiquement exclure le pauvre Bertie de toute décision politique.
Tout à fait.
Est-ce qu'au fond, il n'a pas eu un rôle simplement de représentation ?
Alors, il y a deux choses. D'une part, il a un rôle de représentation parce que il reçoit les ambassadeurs, il assiste aux réceptions officielles. La reine Victoria n'apparaît plus du tout sur la scène publique. Elle vit entre Windsor, le château près de Londres, Osborne, sa propriété dans l'île de Wight, et son château d'Écosse à Balmoral. Bon, elle vit entre ces trois résidences, elle y fait venir ses ministres et premiers ministres, elle ne vit pratiquement plus à Londres. Alors, le prince de Galles la remplace dans toutes les manifestations officielles à Londres. Mais il sait très bien que les manifestations officielles, sur le plan politique, cela n'a aucune importance et aucun intérêt. Donc, comme on lui refuse l'accès aux dossiers diplomatiques, aux dossiers économiques, à tout l'ensemble des dossiers des ministères, eh bien, quelle sera sa manière d'apprendre la politique ? C'est le contact direct. Et alors que Victoria est très réticente vis-à-vis des hommes politiques libéraux, et notamment Gladstone, elle a une inimitié vis-à-vis de Gladstone qui est absolument féroce, eh bien, Albert-Édouard comprend que le souverain est au-dessus de toutes ces amitiés ou inimitiés politiques, et il reçoit à Sandringham tous les premiers ministres, tous les chefs de l'opposition, tous les principaux ministres. Il connaît très bien, en ayant le contact direct, tout le personnel politique anglais. Alors, il le connaît à Londres, mais il se permet de le connaître en France également, ce qui est tout à fait surprenant.
Est-ce qu'il ne va pas favoriser sur le plan politique l'extérieur plutôt que l'intérieur ?
Pas véritablement, parce que les problèmes de l'intérieur ne l'intéressent pas beaucoup, il ne s'intéresse pas aux problèmes financiers, mais il n'y a pas d'échelle de valeur dans son esprit. Il considère que les ministres compétents traitent ces problèmes de politique intérieure et il ne souhaite pas s'en mêler. Il se mêlera essentiellement de la politique militaire, de la politique étrangère et la grande crise constitutionnelle qui va assombrir la fin de son règne.
Quelle est sa réaction en 1866 quand la Prusse bat à Sadova l'Autriche ?
Il comprend que là, il y a un événement majeur qui vient de se passer et qui va poser des problèmes pour l'Europe. Mais il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, les Britanniques ont une vision tout à fait fausse de la France. Pendant la guerre de Crimée, les armées françaises se sont bien comportées et se sont mieux comportées que les armées anglaises qui ont été décimées par la maladie, comme vous le savez. Et
nous l'avons vu avec Pierre Milza à ce micro.
Voilà, oui. Donc, les armées françaises se sont bien comportées. Et quand éclate la guerre franco-prussienne, la Grande-Bretagne, la reine en tête, est persuadée que la France va gagner facilement contre la Prusse. Et personne à Londres n'imagine une seconde que l'armée française puisse être écrasée par les Prussiens. Donc, ce sentiment que l'armée française est supérieure, ce sentiment que la France est encore une très grande puissance, les phénomènes que nous connaissons ne sont observés que beaucoup plus tard. La faible démocratie française par rapport à la démocratie allemande, c'est dans les années 1900-1904 que l'on s'en aperçoit, mais à cette époque, on ne l'a pas vraiment senti, pas vraiment remarqué. Donc la France a l'image d'une très grande puissance. Elle a défait l'Autriche à Solferino et à Magenta. Donc, quand les Prussiens défont les Autrichiens à Salova, ben voilà, on se dit effectivement, eux aussi défont les Autrichiens, mais on n'imagine pas que l'armée prussienne a atteint un tel degré de puissance.
Un an après la défaite de Sadova de l'Autriche, le prince de Galles et son épouse Alexandra vont à Wiesbaden, oui. Et visiblement Alexandra laisse voir ses sentiments anti-prussiens.
C'est épouvantable.
C'est un incident diplomatique.
Elle refuse de recevoir le roi de Prusse qui lui rend visite, qui est un homme, Guillaume Ier, qui a 75 ans ou quelque chose comme ça. Elle refuse sa visite. La reine Victoria a beau la supplier, elle ne veut rien savoir. Il faut que sa mère la morigène en lui disant « Tu ne peux pas faire cette chose-là, cet affront au roi de Prusse. Il faut que tu acceptes cette visite. » Alors, elle le reçoit. Elle reste debout. Elle ne le fait pas asseoir. Et un chambellan lui dit « Mais votre Altesse Royale est bien rouge, est-ce que vous voulez que j'ouvre la fenêtre ? Est-ce que vous souffrez de la chaleur ?» Elle me dit « Ce n'est pas la chaleur, mais c'est la colère qui me rend rouge, qui me monte au front. »
Alors, un an après, ils entament tous les deux un voyage au Moyen-Orient.
Oui.
Et ils découvrent l'Égypte, le Caire. Que se passe-t-il là-bas ?
Alors là, effectivement, je crois qu'il est très séduit par le Moyen-Orient. Ceci l'amènera plus tard, quand la Grande-Bretagne aura une politique très active vis-à-vis de l'Égypte, et notamment après les drames de Khartoum, de Gordon, etc., et puis quand les décisions de reconquête du Soudan, je pense que ça l'amènera, il sera très en faveur de cette politique. Gladstone est réticent, Disraeli est pour, Salisbury est pour, et le prince de Galles, manifestement, fera partie de ce qu'on pourrait appeler les colonialistes. C'est-à-dire,
oui, il garde des idées, bon, vous disiez tout à l'heure qu'il a un sentiment de tolérance à l'égard de tous, oui. Mais il garde des idées bien arrêtées sur la politique britannique.
Ah, tout à fait. Il est complètement tolérant, il veut connaître tout le monde, mais dans le fond de son cœur, c'est un conservateur et il dit tous les trois matins qu'il est roi constitutionnel et il a le tempérament d'un autocrate, celui qui se dit... Vous savez, celui qui se proclame trop quelque chose, c'est souvent pour masquer le fait qu'il est de tempérament le contraire.
Rarement un esprit ose être ce qu'il est. C'est une phrase de Boileau.
Tout à fait.
Alors, est-ce que c'est un prince de Galles populaire à ce moment-là ?
Alors, la popularité de Bertie va connaître des hauts et des bas extraordinaires. Et elle va fluctuer en fonction des différents scandales son nom sera mêlé à plusieurs scandales en Grande-Bretagne qui vont amener sa popularité à un niveau extraordinairement bas. Ce qui va l'aider à survivre, j'allais dire politiquement et sur le plan de la popularité, c'est l'extraordinaire popularité d'Alexandra. Parce qu'elle est la personne de la famille royale la plus populaire. C'est extraordinaire. Et de toute sa vie, comme princesse de Galles, comme reine, et puis ensuite, après la mort d'Édouard VII, elle demeurera un personnage incroyablement populaire et cher au cœur des Anglais. C'est très curieux.
En 1871, il échappe de peu à la mort.
De très peu.
Que se passe-t-il ?
Il échappe de très peu à la mort, il revient d'Écosse, il s'arrête chez un ami, Lord Loughborough, et il attrape la typhoïde. Il attrape la fièvre typhoïde et lors de ce séjour, il est là avec un autre ami et puis il y avait son cocher qui était avec lui. Son ami meurt, le cocher meurt et lui lutte pendant une vingtaine de jours. Il est vraiment considéré entre la vie et la mort, potentiellement perdu. Ce qui prouve qu'il a une constitution solide, qu'il a une forte constitution parce qu'il arrive à dominer sa maladie et il prend le dessus. Et alors, heureusement pour la monarchie, parce que 1870-1871, c'est l'époque de plus basse eau pour la monarchie britannique. Et Albert Édouard a été mélangé à un scandale qui s'appelle l'affaire Mordaunt, dans lequel d'ailleurs il n'était pas responsable, mais c'est une sombre affaire qu'il faut lire dans le livre parce qu'on ne peut pas l'expliquer comme ça à un micro. Mais ça contribue à abaisser sa popularité. Et puis, c'est le lendemain de la chute du régime impérial en France et d'un très fort mouvement républicain en Angleterre. Plus de 80 clubs républicains sont créés en Angleterre en 1870, au lendemain de la chute de l'Empire en France. Et il y a un mouvement qui se dessine, qui est une véritable hostilité vis-à-vis de la reine Victoria. Parce que la reine Victoria est invisible, elle ne vient au Parlement que pour demander des dots pour ses filles, pour marier ses filles, ou des annuités pour ses fils quand ils deviennent majeurs. Donc, un député propose de créer une commission d'enquête sur les finances de la reine. Des articles apparaissent dans les journaux. Que fait-elle avec tout cet argent, etc. Un vote a lieu pour créer une telle commission d'enquête et 60 députés au Parlement votent en faveur de la commission d'enquête, ce qui est un véritable vote de censure pour la monarchie. Et la maladie d'Albert Édouard que vous venez d'évoquer va transformer complètement le sentiment des Britanniques. Et il va retrouver toute sa popularité. Le Premier ministre Gladstone dit « Nous allons faire un grand service d'action de grâce à la cathédrale Saint-Paul à Londres. » Il s'y rend avec sa mère et c'est un triomphe. C'est extraordinaire. Toute la foule anglaise est dans la rue, heureux de revoir sa reine qu'elle n'a pas vue depuis des années et de voir le prince de Galles en bonne santé. Et donc, l'opinion publique est complètement retournée. Il y aura des bas, de nouveaux bas, plus tard, au moment de l'affaire Tranby-Croft.
Je rappelle que nous recevons Antoine d'Arjuson, auteur d'une biographie chez Perrin, Édouard VII, le prince de l'entente cordiale. Nous nous retrouvons tout de suite après une toute dernière pause.
Vous écoutez Canal Académie.
Chaque semaine, l'Académie des sciences morales et politiques ouvre ses portes à un conférencier. Cette année, l'Académie se penche sur la construction européenne, les frontières de l'Europe d'un point de vue historique, l'Europe vue du monde arabo-musulman, l'Europe médiévale, l'Europe et les femmes. Radio Canal Académie vous propose de découvrir les grands sujets traités en séance. Plusieurs fois par jour, retrouvez l'intégralité des séances de l'Académie des sciences morales et politiques en écoutant Radio Canal Académie.
Un jour dans l'histoire reçoit Antoine d'Arjuson, auteur d'une biographie aux éditions Perrin, le prince de l'entente cordiale, Édouard VII. Alors Antoine d'Arjuson, on a envie de dire au fond que devant cette reine Victoria qui reste recluse chez elle, est-ce qu'au fond Édouard VII n'est-il pas le roi avant d'être le roi ?
Il est un peu le roi avant d'être le roi et beaucoup le considèrent comme tel. Et puis, il y a les 10 dernières années de vie de la reine entre 1891 et 1901 et vraiment, elle est très affaiblie. Elle est très affaiblie, alors elle continue à commenter toutes les notes et toutes les dépêches que lui envoient ses ministres, mais ses ministres n'en tiennent aucun compte. Victoria a des premiers ministres qui sont de grandes personnalités qui mènent leur politique sans s'occuper une seconde des avis de la reine. Donc, il est déjà le roi.
Est-ce qu'il s'implique un peu plus justement vers les ministres ?
Un petit peu. Il a de pas très bons rapports avec Lord Salisbury, qui est le dernier premier ministre de sa mère et qui sera son premier premier ministre. Mais Salisbury fait très vite savoir au roi qu'il va quitter le gouvernement et il va tomber sur des premiers ministres qui seront des personnalités beaucoup plus faibles. Le premier, ça sera Arthur Balfour, qui est connu dans l'histoire à cause de la déclaration de 1917 sur le foyer national juif en Palestine, quand il est ministre des Affaires étrangères. Donc c'est comme ça que l'histoire le connaît. Mais en fait, Arthur Balfour, c'est un homme assez faible et le rôle politique réel d'Édouard VII tient au fait que son premier ministre est un homme extraordinairement intelligent, mais un peu indécis, un petit peu faible, et qu'il est surtout à la tête d'un gouvernement divisé, complètement divisé, entre libre-échangiste et protectionniste. Et il va essayer, pendant les quatre années où il est premier ministre d'Édouard VII, de maintenir ce gouvernement ensemble. Et cette faiblesse gouvernementale explique les initiatives politiques d'Édouard VII, et notamment en matière de politique étrangère, notamment ce voyage à Paris de 1903 qu'il décide tout seul, contre l'avis de Balfour, contre l'avis de Lansdowne, son ministre des Affaires étrangères, et il vient à Paris tout seul, sans s'embarrasser de ses ministres, etc. Et il prend une initiative politique majeure en dehors de son gouvernement.
Alors, il est toujours aussi actif après 1871. Il va, avant ce voyage à Paris, il retourne bien évidemment plusieurs fois à Paris. Notamment, il reconnaît cette Troisième République qui est naissante et il la reconnaît très tôt. Et il va vers un personnage, au fond, on est un peu étonné de le voir aller vers Gambetta, qui est le républicain par excellence.
Absolument. Et alors, les deux hommes se rencontrent, ils ont un premier déjeuner au Café de la Paix, et curieusement, ils s'entendent remarquablement. Ils n'ont rien a priori pour s'entendre, ils viennent d'horizons complètement opposés, et ces deux hommes s'entendent parfaitement. Et nous pouvons expliquer cette attitude par le côté, pour employer le jargon, pour bête politique d'Édouard VII. Édouard VII, c'est une bête politique. Il a la politique dans le sang. Il a l'instinct de la politique. Et il rencontre avec Gambetta une autre bête politique. Et les deux hommes se reconnaissent comme tels et s'entendent admirablement. À tel point que donc, ils vont se revoir à plusieurs reprises, ils vont se revoir à Paris, ils vont se revoir au château de Breteuil, rencontre organisée par le marquis de Breteuil, et qui est toujours évoquée aujourd'hui quand on visite ce superbe monument. Et ils vont s'entendre, et c'est un malheur pour le rapprochement franco-anglais, que la mort de Gambetta, une année après qu'il ait quitté le pouvoir en 1882, il meurt en 1883 ou 84, je ne me rappelle plus exactement, mais c'est vraiment un malheur pour l'entente franco-britannique, parce que ces deux hommes, Gambetta est convaincu de la nécessité pour la France d'une entente avec l'Angleterre, et il, quand Théophile Del Cassé va adopter cette politique, il se référera à Gambetta comme étant son maître dans ce domaine.
Alors, nous avons, le temps court malheureusement, nous avons évoqué ce personnage politique, et au fond, c'était le but de cette émission, c'était de montrer qu'il n'était pas un coureur. Pourtant, le mythe du coureur, enfin qu'il était un coureur, mais qu'il avait cette responsabilité politique et cette importance politique. Pourquoi le mythe du coureur reste au...
Alors, le mythe, c'était un homme charmant, qui plaisait aux femmes, les femmes lui plaisaient, il a eu un certain nombre d'aventures, il a eu des bonnes fortunes, il a eu des maîtresses plus ou moins officielles, il a eu quelques rencontres à Paris que j'ai racontées, avec notamment une jeune américaine dont il était fort épris et qu'il voyait ici, parce que c'était plus facile pour lui de le voir qu'à Londres. Mais par contre, le mythe de sa présence dans les lieux chauds de la capitale, dans des maisons closes où soi-disant il a eu un fauteuil décidé par lui, ça c'est un mythe total. C'est-à-dire que finalement, vous ne pouvez pas rencontrer une personne qui vous dise « Ah mais mon grand-père savait que Édouard VII allait dans tel endroit, au Chabanais ou au Wantoutou, etc. » Et vous savez, ces histoires que l'on se raconte indéfiniment de père en fils et puis qui sont enjolivées chaque fois qu'elles sont racontées, et à la fin, on en arrive à l'homme coureur qui passe sa vie au Moulin Rouge, ce qui est faux. Absolument faux.
Est-ce que l'image de la monarchie britannique, au fond, n'a pas changé? Car on voit toujours ces sentiments qu'ils ont développés dans la presse populaire aujourd'hui.
Oui, il est certain qu'il y a en plus cette tendance en Grande-Bretagne, à avoir un goût très prononcé pour tout ce qui touche au scandale, tout ce qui est un petit peu sulfureux, comme vous dites, une espèce de presse à quatre sous, qui n'existe d'ailleurs que dans ce pays, à ce point-là, avec des journaux qui tirent à des millions d'exemplaires. Mais je pense que les exagérations, tout cela n'a rarement été écrit, sauf dans quelques livres sur Édouard VII qui cherche un petit peu à faire scandale. Mais y a très peu de réalité là-dessous. Il y a une petite réalité qui a été multipliée par 10 ou par 25.
Eh bien, c'est sur ces mots, Antoine d'Arjuson, que nous allons nous quitter. Je vous remercie vivement d'avoir répondu à cette invitation, à l'invitation d'un jour dans l'histoire et de Canal Academy. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Édouard VII, une biographie, donc Le Prince de l'Entente Cordiale aux éditions Perrin. Et je donne rendez-vous à nos auditeurs à la semaine prochaine. Merci et au revoir.